Bonjour, bon début d'après-midi pour cette troisième journée des fractions. Une lecture suivie d'une rencontre avec Pierre Questel, en partenariat donc avec Arsena, un texte de théâtre publié par Tapuscrit Théâtre Ouvert et un texte de théâtre qui se lit également puisque je suis comme vous, j'attends de l'entendre, mais pour l'instant je l'ai lu sur papier. C'est peut-être une des questions qu'on pourra se poser aussi sur le statut d'un texte comme celui-ci, qui évidemment, vous allez l'entendre, parle avec vigueur et oralité, mais nous parle aussi de thématiques extrêmement contemporaines, et on aura l'occasion d'en parler. Mais je vous laisse écouter Pierre Questel pour « Après nous les ruines » en lecture. Merci.
Après nous les ruines. Personnage, Marissa. Eva. Glenn. Manuel. Un parc en deux années, quatre saisons et trois syncopes. Printemps. 1. 12h09, temps ensoleillé, 23 degrés Celsius. Vent 3 km/h, indice UV 4, qualité de l'air bonne. Marissa. Ici. Oui, juste ici. C'est l'endroit idéal. D'ici, nous avons une vue imprenable sur le parc, pas un souffle de vent qui vienne remuer la surface de l'étang, une nature florissante pour nous faire oublier les agitations de la ville, l'horizon est clair, parfaitement dégagé, aucun mauvais présage en vue, et l'air semble si pur, encore un peu frais, c'est vrai, comme s'il charriait les derniers souvenirs de l'hiver, mais si pur. Oui, c'est un très beau dimanche de printemps qui s'annonce pour nous. Eva. Vous entendez ce calme ? Marissa. Une paix incroyable, un abri hors du monde. Eva. Ça ne vous fait rien, à vous, de ne pas entendre les oiseaux chanter ? Glenn. Alors, Marissa, c'est décidé cette fois ? Je meurs d'envie d'écraser mon cul quelque part. Manuel. Attention, le petit cul de Glenn commence à s'impatienter. Oui, c'est décidé. Installons-nous ici. Nous serons protégés du soleil par ce... Qu'est-ce que c'est ? Un chêne ? Un châtaignier, mon ange. Oh, un châtaignier, c'est parfait. Alors, puisque c'est décidé, je déplie la nappe et nous allons enfin pouvoir ouvrir les hostilités. Les mésanges, par exemple, chantent même en plein hiver. C'est devenu rare de les entendre en ville, à part peut-être le matin, à 5 ou 6 heures du matin, quand les rues sont encore désertes. Mais ici, et surtout à 7 heures, on devrait parvenir à les entendre très clairement. Qu'est-ce que tu fais ? Quoi ? Je t'écoute ? Non, tu es en train de te moquer de moi. Je t'explique que ce n'est pas normal, que je trouve que ce n'est pas normal de ne pas entendre les oiseaux chanter, mais toi, tu te moques, je le vois sur ton visage, tu souris. Je ne souris pas. Tu le vois bien, mon visage exprime l'indifférence. La disparition des oiseaux, ça te parle ? Parce que ce n'est ni une fiction, ni un horizon inquiétant qui concernera les futures générations de ce monde. Depuis plusieurs décennies, les oiseaux meurent par millions. Ils disparaissent de la surface de la Terre. Et qu'est-ce qu'on peut y faire à part s'en plaindre ? Tu es d'un cynisme, c'est effrayant. Tu as toujours été un être profondément cynique avec tes grosses bagnoles, tes costumes cintrés. C'est ce qui me dégoûte le plus chez toi. Eva, ce n'est pas la peine de te mettre dans un état pareil. Mais c'est toujours la même chose avec lui. On dirait que ça l'amuse de me foutre en rogne. Je ne comprends pas pourquoi il s'acharne autant contre moi. Moi ? Je vois très bien pourquoi. Non, Manuel. Pour la millième fois, il n'y a aucune tension sexuelle entre Glenn et moi. Ça va faire 15 ans que vous nous ressortez le même refrain. 15 années de profonde déception pour vous, j'en ai bien conscience. Mais il faut se rendre à l'évidence parce qu'aujourd'hui, nous avons bien grandi et pris conscience que nous habitions, Glenn et moi, des réalités complètement différentes et profondément inconciliables. C'est ça! Et maintenant, tout le monde la ferme et on s'assoit. Bon, on va donc pouvoir commencer l'apéritif, dans la bonne humeur et sans faire la moindre histoire, compris ? Oui. Alors, c'est parti. D'abord, le champagne, pour célébrer la toute petite vie qui grandit tranquillement dans ce tout petit ventre et qu'on attend déjà avec une impatience terrible. Arrête, Manuel, tu me chatouilles ! Vous vous rendez compte ? À l'heure actuelle, notre bébé n'est pas plus gros qu'une cacahuète dans le ventre de Marissa. Je crois que je vais vomir. Ensuite, les amuse-bouches. Nous avons des feuilletés à la saucisse, des gougères au comté, ici des aumônières de jambon cru au foie gras, des muffins au saumon fumé, là des mini quiches Lorraine, ça ce sont des boulettes de merlan, du tzatziki, la base, avec des graissins au sésame, trois baguettes tradition bien fraîches pour nous faire de belles tartines, mot mousse maison, et enfin du Saint-Moray, mon petit plaisir coupable. Eh bien, avec tout ça, on ne risque pas de mourir de faim. Manuel débouche la bouteille de champagne. 4. 14h02, temps ensoleillé, 23,9 degrés Celsius. Vent 6 km/h, indice UV 4, qualité de l'air bonne. Eva. Comment savoir quand et comment la fin du monde adviendra ? Et sera-t-elle aussi spectaculaire qu'on l'imagine dans les films ? Une catastrophe naturelle sans précédent ? Un virus qui décimera l'humanité tout entière ? Une guerre nucléaire ? L'explosion du soleil ? L'hypothèse la plus probable, l'humanité coupable de sa propre extinction. Ou la moins vraisemblable, une invasion extraterrestre. Moi, je me demande, je m'interroge souvent, oui, vous le savez déjà, puisque je vous embête régulièrement avec ça, mais je me demande de quelle manière elle arrivera. Si la fin du monde sera aussi spectaculaire et dramatique qu'on l'explique dans les films. Je n'en suis plus si sûr aujourd'hui. J'ai plutôt l'impression que les bouleversements que nous traversons ces dernières années, c'est déjà ce qu'on pourrait appeler la fin du monde. Une fin lente, interminable, et contre laquelle nous ne faisons rien, contre laquelle nous pensons ne rien pouvoir faire. Et peut-être que nous ne faisons rien car nous croyons encore que la fin du monde adviendra d'une manière brutale, comme dans un film. Alors qu'au fond, on sait déjà tous que lorsque le jour viendra, s'il doit y avoir un jour à nommer comme une limite entre un avant et un après, la fin du monde nous semblera d'une banalité affligeante. Et malgré tout, nous serons déçus, profondément déçus. Tout sera terminé et nous dirons seulement « C'était donc ça ?» La fin du monde elle-même a donc ce goût d'inachevé ? Vous voyez ce que je veux dire ? 5. 14h27, temps ensoleillé, 24,2 degrés Celsius. Vent 6 km/h, indice UV 4, qualité de l'air bonne. Secousse sismique, 5 secondes, magnitude 3,4, intensité 2. Tiens, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai senti quelque chose. Quelque chose dans ma nuque, une sensation étrange, comme un frisson de plaisir, ou peut-être une caresse. Quelque chose d'agréable en tout cas, et maintenant, je crois bien que ça me démange dans ma nuque. Montre-moi, tu vois quelque chose ? Oh, il est rouge, viens voir. Oh, effectivement, il est rouge. On dirait que c'est enflé, c'est sans doute une piqûre, une allergie. Ça ressemble plutôt à une piqûre. Un coup de soleil, peut-être. Je te dis que c'est une piqûre. Il a juste un bug au cerveau. Je vois pas pourquoi vous vous affolez autant. Hein. Ça te fait mal ? Glenn ? Tu sens quelque chose quand j'appuie là ? Glenn ? Je suis pas sûr qu'il parvienne encore à nous entendre. C'est vrai qu'il a un regard étrange. Et Glenn ? Est-ce que tu m'entends, Glenn ? Oui ? Je crois. Oui, je t'entends, Manuel. Comment tu te sens ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de mots pour le dire. Je me sens... Je crois que je me sens comblé. Oui, c'est ça, comblé. Comblé par la vie. Excusez-moi. Pardon. Je sais pas pourquoi je rigole comme ça. Pardon, Glenn, je me moque pas, non. C'est sans doute une frayeur. Tu nous as fait une petite frayeur, voilà. Je décompresse. Pardon. Tout va bien, tu es comblé. Ce mot. Comblé. Comblé par la vie. Pardon, je me moque pas. C'est tellement bon. C'est tellement bon de rire comme ça. Ça fait du bien. Le plus grand bien. Mais pardon, pardon, je vais m'arrêter, voilà. Ça ne veut pas s'arrêter. Je comprends pas. Je sais pas ce qu'il m'a dit. Je suis envahi. Envahi par la joie. Je raconte vraiment n'importe quoi. Je suis désolée, pardon. Je vais m'excuser. Je suis désolée. Je vais m'arrêter. Je m'arrête. Voilà. Voilà, désolée. Je vais me calmer. C'est bon. Je me calme. Je me calme. C'est bon. Voilà. Je me calme. Voilà. C'est fini. Oh. J'ai mal partout maintenant. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien de rire comme ça. On oublie de rire comme ça et comme ça fait du bien. Oui. Voilà. Maintenant, je suis calme. 7. 16h04. Couverture nuageuse partielle. 23,1 degrés Celsius, vent 8 km/h, indice UV 4, qualité de l'air bonne. C'est l'heure du goûter, les enfants. Vous voulez du gâteau ? Une petite douceur pour se faire plaisir ? Oui, non ? Attention, parce qu'après, il n'y en aura plus assez pour tout le monde, hein. Si personne ne se prononce, moi j'en veux bien une part. Rien qu'une, tu es sûr ? Ah oui, pourquoi ? Une très grosse part alors. Tu es moqueur, il est moqueur, vous ne trouvez pas ? Non, je ne suis pas moqueur, je suis tendre. Oh, tendre, j'aime beaucoup ça, tendre. Allez, c'est parti ! Une grosse part de tendresse pour ma gourmande et une. S'il en reste un peu après vos effusions de tendresse, j'en veux bien une part moi aussi. Je vais également essayer d'y goûter. Ça va, je ne suis pas une vorace. Non, seulement les nuits de pleine lune. Oh, toi alors. Manuel coupe le gâteau et donne sa part à chacun. Tout le monde est servi ? Eh bien, bon appétit. Manuel, Marissa, Glenn et Eva commencent à manger. Secousse sismique, 9 secondes, magnitude 3,7. Intensité 2. Qu'est-ce que tu as ? Tu fais une de ces têtes ? On croirait que tu as vu la mort. Pas du tout. Je suis surpris. Je suis agréablement surpris, Manuel. Je trouve que ton gâteau est vraiment excellent. N'en faites pas trop quand même. Il n'est pas si bon que ça. Je me suis planté dans la cuisson. Mon ange, ne sois pas si modeste. Je vous assure, il est trop cuit. Ah, c'est fou, hein ? À chaque fois, tu ne sais pas recevoir les compliments. Si. Bien sûr que si, excusez-moi. Vous me faites plaisir. Ça me fait vraiment plaisir que vous aimiez. Par contre, j'arrive pas à reconnaître la saveur. Il est à quoi exactement ? Je ne dis rien, c'est vous qui devinez. C'est du caramel ? Non, c'est clairement un gâteau au chocolat. Moi, j'aurais plutôt dit un mélange de fruits rouges et de café, avec une pointe de vanille, à moins que ce ne soit de la cannelle. Si ça ne vous dérange pas, j'en reprendrai bien une part. Pas de problème. De toute façon, tout doit disparaître. On ne rapporte rien à la maison. Allez, si tout le monde en reprend, je me laisse tenter aussi. Eva, je t'en garde une part. Avec plaisir. Manuel coupe le gâteau pendant que les autres terminent leur première part. Alors, dis-nous, Manuel, finalement, il y a quoi dans ce gâteau ? Glenn, Eva et Marissa regardent Manuel dans l'attente de sa réponse. Secousse sismique, 14 secondes, magnitude 4,5, intensité 3. Syncope. Dans la nuit de dimanche à lundi, à 6h57 du matin, un séisme de magnitude 8 sur l'échelle de Richter. 7 morts, plus de 200 blessés et 24 personnes toujours portées disparues. Des secousses de faible intensité enregistrées les jours précédents. La centrale nucléaire de la crainte d'une nouvelle crise. 2 jours après le séisme, des explosions sur le site de la centrale. L'état d'urgence a été décrété par le gouvernement, ce qui a provoqué l'arrêt automatique des réacteurs en service. Des défaillances techniques sur les réacteurs numéro 2 et 4. 3 jours après la catastrophe, la fusion du cœur du réacteur numéro 2. La situation est sous contrôle. Un désastre. 7 jours après la catastrophe, le gouvernement rehausse le niveau d'alerte. Un confinement forcé dans un rayon de 100 km autour de la centrale. L'évacuation des territoires sinistrés. 250 000 personnes aujourd'hui sans refuge. Nous ne sommes pas confrontés à une catastrophe industrielle. C'est un mensonge. De la crise. On nous inonde d'informations pour nous perdre. C'est la vérité. 1 mois et demi après la catastrophe, des résidus radioactifs mesurés dans plusieurs grandes villes du pays. On ne parle pas des conséquences à long terme. Quand les gens tomberont malades, les responsables, rendre des comptes. La justice doit. C'est notre devoir. C'est normal. Une crise aux conséquences sanitaires désastreuses. Les déplacés et les enfants seront les premiers touchés. 3 mois après la catastrophe, les gens en ont assez de vivre dans l'inquiétude. C'est normal. Renouer avec nos habitudes d'avant. Il faut maintenant relancer notre économie fragilisée par la crise, rétablir la fierté et la grandeur de notre nation. La vie continue, c'est normal. Et maintenant, retour à l'actualité. Des manifestations dans toutes les grandes villes du pays contre le projet de réforme. En ce début d'été, le festival de la photographie et les vacanciers ne manquent pas à l'alerte canicule. Une attaque au couteau dans le centre-ville de la rentrée des classes pour 12 millions d'élèves. 6 mois après la catastrophe, la désillusion. C'est normal. On espérait que les choses allaient changer, mais on a recommencé à vivre comme si rien ne s'était passé. C'est ça le plus terrible. Automne. 1. 12h25, couverte nuageuse, ciel, 26,2 degrés Celsius. Vent 9 km heure, indice UV 7, qualité de l'air. Marissa. Excusez-nous pour le retard, on a eu un petit imprévu avant de partir. Eva. Rien de grave. Vous êtes arrivée depuis longtemps ? Glenn. Non, depuis quelques minutes, seulement quelques minutes. On bavardait pour passer le temps. En fait, on ne disait rien. Oui, on vous attendait, tout simplement. Bien. On va donc pouvoir s'installer ? C'est toujours aussi beau ici, vous ne trouvez pas ? L'automne est doux, l'été indien qui s'annonce, les feuilles des arbres commencent à déployer leurs dégradés de couleurs. Il y a quelques nuages à l'horizon, c'est vrai, mais le soleil est avec nous malgré tout. Un ciel relativement dégagé. Profitons-en, puisque les derniers mois... Mais on ne va pas parler des derniers mois. Du plaisir avant tout, c'est le maître mot de cette journée. Il y a des oiseaux, non ? Ils sont là, quelque part dans le parc. Il faut croire qu'ils n'ont pas encore entamé leur migration. Manuel, tu nous déplies la nappe ? C'est comme si tout était aussi paisible et harmonieux qu'avant. Aujourd'hui, à entendre les oiseaux chanter, j'ai l'impression que les 6 derniers mois n'ont pas vraiment eu lieu. Manuel, pourquoi tu ne déplies pas la nappe ? Manuel, c'est que j'ai comme un doute. C'était ici ? La dernière fois, on s'était installé ici ? Tu ne te rappelles pas, il y avait ce chêne. C'est un châtaignier, Marissa. Oui, un châtaignier, peu importe. On s'était installé ici pour qu'il nous protège du soleil. Alors je vais... Et n'oublie pas la bâche entre la terre et la nappe. Tu as peur de salir ta nappe ? Bien sûr que non. J'ai une machine à laver, Eva. Je peux faire une machine pour laver mon linge sale. J'ai aussi du détachant, si besoin, pour les grosses salissures. Taches de vin, de gras ou d'herbe, ce n'est pas un problème. Même le sang, je peux l'enlever facilement. Quoi ? Il suffit de laisser le produit agir pendant quelques minutes. Pourquoi tu parles de sang ? Ensuite, tu frottes la tache et... Le sang, c'était juste un exemple. Non, non, s'il te plaît, je sens qu'un petit rien et je pourrais me mettre à pleurer sans raison. Parfait. Alors, on va pouvoir commencer avec l'apéritif. Vous ne vous asseyez pas ?
Si, 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 bien sûr, oui, oui, oui.
Tout est là. Vous verrez, j'ai essayé de faire attention. J'ai seulement pris des produits importés, des choses bien emballées pour... Mais bref, allez-y, servez-vous. Ça va, Manuel ? Tu as l'air un peu... Oh, oui, ne faites pas attention, il est comme ça depuis ce matin. Ce n'est rien. J'ai mangé quelque chose que... Je n'arrive pas à le digérer. Je lui ai dit de rester à la maison, mais il n'a rien voulu entendre. Je voulais venir. J'ai insisté pour venir parce que je ne voulais pas te laisser toute seule ici. En vérité, il est comme ça depuis des semaines. Par moments, Manuel passe des heures entières replié dans son coin, comme si le monde autour de lui n'existait plus. Et puis il y a des jours, comme aujourd'hui, où il a des sortes d'élans, des obsessions incompréhensibles, et alors il ne veut plus me lâcher d'une semelle, comme s'il voulait se fondre dans ma peau. J'ai juste avalé quelque chose qui ne passe pas. On ne va pas commencer à en faire tout un drame, ni commencer à croire des choses qui ne sont pas vraies, n'est-ce pas ? Non. Bien sûr que non. 4. 14h50. Ciel. 5. Ok. U. Kit. R. Marissa. À un moment donné, la conversation s'épuise et le silence s'installe autour de nous. On n'entend plus qu'un léger, très léger souffle du vent qui glisse entre les arbres. Les branches s'agitent doucement, elles craquent. Je frissonne, comme après un coup de froid. Pourtant, je meurs de chaud. À cet instant précis, j'hésite à prendre la parole. J'ai une impression étrange qui creuse le fond de mon ventre, qui ne me quitte plus depuis quelques minutes, probablement depuis une heure, peut-être même depuis notre arrivée. Quelque chose manque. Il y a un vide là, entre nous. J'en suis certaine, quelque chose n'est plus là. Nous avons perdu, comme une étape importante dans ce rituel, notre dimanche au parc. Je repasse en boucle les images des dernières heures, mais je ne vois rien, ne retrouve pas les mots, aucun geste de ce que nous aurions dû, mais oublié de faire. Et pourtant, il manque cette chose-là. Une chose à laquelle nous aurions dû penser spontanément. Mais nous avons oublié d'y penser, et à présent, il est trop tard. Le souvenir s'est embrouillé, il s'estompe, il s'apprête à disparaître. Et alors, ce sera comme s'il n'avait jamais existé. Et pourtant, il suffirait peut-être d'en parler pour qu'il nous revienne en mémoire. Oui, je suis au bord de parler et pourtant je ne dis rien. Je regarde le parc, sa quiétude. J'essaie seulement d'accepter l'irrémédiable. 5, 15, 3, 6, voilà. 4 vir... 20... Oh... 10... U... Kit... Oh putain de merde. Quoi ? Un truc. J'ai senti un truc là sur moi, dans ma nuque. Un truc qui m'a piqué dans ma nuque. Quoi comme truc ? Je sais pas, Marissa, un truc qui pique et qui démange, quelque chose de vraiment désagréable. Maintenant ça brûle, ma peau me brûle. C'est sans doute un moustique, il y a l'étang juste à côté d'ici. Ou alors c'est une tique. Quoi ? Tu as déjà entendu parler des tiques ? La maladie de Lyme provoquée par les piqûres de tiques. Si tu avais été attaqué par une tique, elle serait encore sur ta nuque. Les tiques ne piquent pas, elles s'accrochent. Elles mordent et s'accrochent à leurs victimes pour se nourrir de leur sang. Pourquoi tu me racontes ça ? C'est horrible ! Si tu avais été attaqué par une tique, elle serait encore sur ta peau. On pourrait voir d'où vient le problème. Je te dis qu'il y avait quelque chose. Je n'ai pas rêvé, ça m'a tourné autour et ça m'a sauté dessus. Ça faisait un bruit, un bourdonnement, un bruit sourd dans mon oreille avant de fondre sur ma nuque. À ma connaissance, les tiques ne volent pas. Ton histoire ne tient pas debout. C'était peut-être une guêpe. Oh, ça paraissait plus gros, sûr que c'était plus gros. Un temps ? Une guêpe, un temps, un truc encore plus gros, je suis sûr que ça y est encore. Marissa, regarde s'il te plaît, tu vois quelque chose ? Tu es rouge, un peu. Ça fait comme des plaques. On dirait que ça descend dans ton dos. Tu entends, Eva ? Des plaques. Tu penses toujours que c'est une simple piqûre ? C'est peut-être une réaction allergique. Hein. Tu n'aurais pas changé de lessive ? Non, je n'ai pas changé de lessive. Je ne suis pas allergique. Tout ça, c'est dans ta tête. Hein. Toute cette histoire se passe uniquement dans ta tête. Touche-moi. Je te demande pardon. Touche mon dos pour vérifier qu'il n'y avait vraiment rien d'anormal. Tu es sérieux ? Tu es sérieux, là ? Non. Non, Glenn, je ne vais pas toucher ton dos. Je ne vais pas alimenter ta paranoïa simplement pour te faire comprendre que tu as tort. De toute façon, tu ne voudrais pas me croire. Tu mentirais. Je suis sûr que si tu touchais mon dos, tu sentirais une excroissance, quelque chose d'anormal, mais tu dirais quand même que tu ne sens rien. Qu'est-ce que je disais ? C'est peine perdue. Allez, touche-moi ! Touche-moi, Eva ! Je veux que tu me touches ! Oh, arrête ça, hein ! Tu commences à me faire flipper ! Je ne comprends pas comment tu peux rester aussi stoïque. Être à ce point borné et insensible ? Tu nies la vérité, il n'y a pas d'autre explication possible ? Tu fais comme si tout allait bien, mais au fond de toi, tu sais qu'il y a un problème. Parce que quelque chose s'est produit. Quelque chose nous a affectés, quand bien même nous n'avons rien vu arriver. Quelque chose s'est glissé, là, à l'intérieur de nous, s'est logé dans nos corps, sur nos peaux, dans nos têtes. Et depuis, nous sommes devenus suspicieux. Nous ne pouvons plus faire confiance à personne, ni faire preuve d'insouciance, car ce temps-là est révolu. C'est terminé le temps de l'insouciance. Terminé les petits riens de la vie, parce que ce qui nous arrive est grave. Excusez-moi. Pardon, c'est nul. Je suis désolée. C'est pas drôle. Non, c'est pas... Enfin, je ris pas. Pardon, Glenn, c'est nerveux. C'est nerveux. Je me sens tellement... Alors je lâche, je craque. Je sais pas pourquoi. C'est nerveux. C'est tellement... J'ai tellement chaud. Je sue, j'ai chaud, je pleure. Pardon, pardon. Je contrôle plus du tout. Tout mon corps qui s'emballe, qui tremble, qui craque. Je craque. J'ai chaud. Cette sueur insupportable. Non, je vais m'arrêter. Promis, j'arrête. Je vais me calmer. Je peux m'arrêter. Pardon. Je fais respirer. Je respire. Oui, tout va bien. J'arrive pas. Désolée. Je respire. J'essaie. Oui. Ça y est. C'est bon. Oui. Pardon. C'est bon. J'arrête. Oui, c'est bon. J'arrête. 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 Je me calme. C'est bon. C'est fini. J'ai mal partout maintenant. Oui, j'ai mal. J'ai vraiment mal. Je n'arrive plus à respirer. Ça va aller, allonge-toi Marissa. Ferme les yeux, respire, ça va passer. C'est seulement une frayeur. On s'est fait une petite frayeur tous les quatre, mais tout va s'arranger, rassure-toi. Merci.
merci. Merci pour cette lecture. Alors, c'est toujours, j'écoutais ça tout en me posant des questions sur le texte, en me demandant mais quelles questions je vais vous poser, puisque sachant que quand on fait ce qu'on appelle un bord de scène, on saisit toujours quelqu'un qui vient de faire quelque chose d'assez, voilà, d'assez engagé, et également un public qui a reçu quelque chose. C'est-à-dire qu'on était, on était dans les voix, dans l'inquiétude, dans le glissement vers ce qui apparaît presque comme de la folie par moment, mais qui est surtout, à la lecture du texte, l'apparition de fragilité, c'est-à-dire de fêlure. Tel que ça se déploie, ce déjeuner sur l'herbe, sans cesse réitéré au fil des saisons, et les nouvelles du dehors qu'on cache, qu'on voile. C'est un texte qui dit l'effondrement et ce qu'il nous fait, hein, pour le dire... pour le dire aussi simplement que possible. Et il le manifeste par des personnages. Et ça, c'est ce qu'on a entendu. Hein, vous avez lu une première partie, c'est-à-dire qu'il y a évidemment une dramaturgie et d'autres choses. On va vers encore plus d'inquiétude et de choc. Et en une demi-heure, on ne peut pas lire l'ensemble. Mais du coup, pour en venir à une question, et c'est vraiment une question, pour le coup, de Candide et d'animateurs de débat qui en confient souvent des romanciers. On a l'habitude de leur demander comment vous avez fait, par quoi vous avez démarré. Et là, je la pose en étant encore plus dans l'innocence que d'autres fois, c'est-à-dire, j'écoutais en me disant, mais qu'est-ce qui vient d'abord ? C'est-à-dire, là, vous avez lu ce qui prend l'apparence d'une partition par endroit, un texte de théâtre comme celui-ci, d'autant plus qu'il est composé sur la page, on va pouvoir en parler, de la manière dont ça se manifeste, graphiquement aussi. Mais il y a aussi un plan très rigoureux, très séquencé. Et il y a des voix très nettement articulées qu'on a entendues. Pour ainsi dire, et pour commencer, ma question sera, par où ça commence ? Comment vous l'avez écrit ?
Merci. Alors, le point de départ, il ne m'appartient pas, quelque part. Moi, je me suis formé à l'écriture pour le théâtre à Lyon, à l'ENSAT, pendant 3 ans. Et en arrivant dans cette école, on nous a proposé un exercice de commande autour de la catastrophe de Fukushima, c'était en 2015, donc qui est arrivé 4 ans plus tôt. Voilà, l'idée, c'était pas de raconter cette catastrophe-là, mais d'en tirer des motifs pour pouvoir écrire une pièce qui raconte une catastrophe au théâtre et qui tente de répondre à cette question de la représentation. Et là où je me suis vraiment emparé de l'exercice, c'est finalement en m'intéressant un petit peu, en me documentant. Ce qui m'a intéressé, c'est cette question des particules radioactives qui se répandent dans l'environnement une fois que la centrale a explosé, comme ça a été le cas à Tchernobyl ou à Fukushima. Voilà. Et finalement, ces particules, on ne peut pas les saisir, les sentir avec nos sens. Il nous faut des appareils pour pouvoir les mesurer, donc sentir le degré de dangerosité d'un espace. Et cette question de l'invisibilité, elle m'a paru d'autant plus pertinente que ça me posait un défi en tant que dramaturge de comment représenter ce qui est invisible au théâtre et le rendre palpable, visible, sensible. Donc voilà, ça a vraiment été mon point de départ, qui a croisé une autre question aussi, c'était de me dire que finalement je voulais m'éloigner autant que possible d'une tout enjeu spectaculaire, parce que pour moi les films, les séries arrivent très bien à représenter ces catastrophes-là au cœur dans l'œil du cyclone, si je puis dire. Il y a eu la série Tchernobyl, par exemple, il y a quelques années. Et je me disais que j'avais envie de le rapprocher de nous et d'interroger ou de faire trembler un endroit beaucoup plus intime et de parler de ce vertige, voilà, de cette fragilité, vulnérabilité qu'une catastrophe ramène. Et donc, à partir de là, j'ai essayé de m'interroger sur comment on rend visible, justement, cet invisible. Et de là est née une structure, une forme, parce que dans mon travail d'écriture, assez souvent, c'est un peu ce qui m'anime, comment trouver une forme aussi qui raconte un devenir, au même titre que les personnages eux-mêmes évoluent. Et la forme qui m'est apparue, c'est celle de la répétition-variation. D'où après donc, cette fameuse scène de pique-nique qui commence au printemps avant la catastrophe, puis qui se reproduit et qui s'altère parce que, une fois que la catastrophe a eu lieu, tous les éléments et des motifs que j'ai fait revenir, donc ceux que vous avez entendus, le fou rire de Marissa, par exemple, il y a un coup de feu dans d'autres scènes qu'on entend, voilà, des petites choses, ou le gâteau qui revient aussi dans toutes ces scènes. Et voilà, ce que j'ai essayé de rendre sensible, c'est comment on les interprète différemment, les reçoit différemment, qu'est-ce qui change dans notre langage, notre rapport aux autres, le corps aussi des autres, comment on le perçoit, on entre en interaction avec lui. Et petit à petit, voilà, cette forme s'est mise en place d'elle-même.
Ce qui montre, c'est l'inquiétude. Alors là, en tant que spectateur, vous nous avez inquiétés. C'est-à-dire, comme vous avez pu l'interpréter, je pense à ce rire incontrôlé, comme à ces larmes incontrôlées, comme à ces crises par rapport aux piqûres, qui apparaissent là et qui sont évidemment beaucoup plus... beaucoup moins accentuées dans le texte lui-même, qui pour autant nous informe. Et ce qui montre, c'est donc l'inquiétude et aller à plusieurs endroits. C'est-à-dire qu'il y a leur inquiétude sur des détails, a priori. Ils pètent un plomb sur trois fois rien, se dit-on, tout en le masquant, le fait qu'ils s'inquiètent. Et vous parliez de l'invisible, de la menace nucléaire, qui est clairement là dans les enjeux narratifs du texte, mais il me semble qu'elle est à la fois là, concrètement, et également symbolique de tout un ensemble de menaces. Oui. L'invisible, par moment, alors pas dans ce que vous avez lu, c'est un peu après, mais j'ai également pensé à ce que nous a fait à toutes et à tous le confinement. Le confinement fait toute cette période, quoi. L'avant, le pendant, l'après, le on ne sait pas, une menace invisible. Enfin, et ça, on l'a tous vécu. Et le dérèglement dans lequel ils sont me semble aussi redire, et c'est là où je dis, ils nous inquiètent quand on vous écoute, mais en fait, leur inquiétude est nôtre quand on le lit et quand on se l'approprie, parce que ça rejoue ce dérèglement qui ne s'est pas terminé. Enfin,
Oui, bien sûr. C'est d'autant plus juste que, en fait, j'ai écrit une première version de cette pièce entre 2015 et 2016. Et puis, cette version-là, j'en étais pas pleinement satisfait. Je sentais que j'avais donc créé cette forme dont je parlais à l'instant, mais dans laquelle j'étais prisonnier, en fait, parce que c'était beaucoup trop formel. Et puis, j'ai laissé la pièce reposer. Et je l'ai retravaillée, justement, en 2020. Pendant le deuxième confinement, où en plus, comme les théâtres étaient fermés, nos activités à l'arrêt, j'ai aussi retrouvé plus de temps pour m'y consacrer, et je sentais qu'il y avait une résonance avec ce qu'on vivait très forte, et peut-être une nécessité de revenir à ce texte qui ne m'avait pas quitté pendant toutes ces années. Et c'est vrai que, oui, quelque part, il y a quelque chose de plus large sur le vertige, en fait, que provoque une catastrophe sur nous. C'est vrai que ça nous parle peut-être plus directement pendant le Covid. On ne savait plus vraiment comment tirer le faux du vrai, quelles informations étaient recevables, lesquelles étaient des mensonges, et quelle position adopter à une époque où en plus on demande beaucoup de réagir, d'être situé. Moi en tout cas j'ai ressenti très fort ce vertige, j'ai l'impression qu'il était assez collectif, et donc que l'inquiétude comme ça, elle était motivée par cette dimension-là. Et puis petit à petit il y a eu quand même, et c'est aussi ça qui a nourri le retravail de la pièce, par une forme de lassitude à un moment. Donc, on ne l'a pas entendu dans les deux parties que j'ai lues, mais par la suite, voilà, il y a aussi une énergie qui devient un peu plus lasse, qui s'épuise, qui se cristallise avec la dernière partie sur l'hiver. Donc, on est un petit peu gelé dans cette catastrophe. Mais voilà, en tout cas, il y a cette dimension, cette dimension plus large de la catastrophe, mais là où, au-delà de l'exercice d'écrire à partir d'une catastrophe nucléaire, moi, ce qui me semblait d'autant plus sidérant dans la question du nucléaire, c'est que c'est une catastrophe qui va demander, pour certaines particules, en tout cas nucléaires, des millions d'années à ce qu'on s'en débarrasse. Et donc c'est une catastrophe qui s'inscrit vraiment dans le temps, dans la durée, qui concernera des générations qu'on ne connaîtra jamais. Et donc c'est comment en fait on s'empare de cette question-là, alors qu'elle nous paraît irreprésentable, très lointaine aussi d'une certaine mesure, et lointaine aussi parce que finalement l'activité nucléaire, on n'y est pas tant sensibilisé que ça, une espèce de chape de plomb qui entoure tout ce secteur-là de l'énergie. Et donc voilà, ce mystère fait que je crois qu'on a du mal à s'en emparer. Et puis c'est comme ça que, parce que j'ai lu aussi des choses sur Tchernobyl, et Svetlana Alexievitch, dans La Supplication, elle commence son texte par ça. Donc c'est un recueil de témoignages de victimes directes ou indirectes de cette catastrophe-là. Et il y a cette chose qui revient de on vit une catastrophe qu'on n'a jamais vécue, et on n'a pas l'imaginaire nécessaire pour pouvoir se la représenter. Et donc le raccourci, c'est de ramener aussi beaucoup un univers militaire, guerrier, de dire en fait... On nage là-dedans, dans cette dangerosité-là, comme on a pu le vivre, pas dans tous les pays, mais en France, Macron a énormément mis en avant un vocabulaire guerrier dans la politique anti-Covid, quand il nous a dit « nous sommes en guerre ». Voilà. Donc, finalement, ces imaginaires-là, ils sont aussi, ils viennent dialoguer avec ces catastrophes irreprésentables.
Et alors, il y a, on lisait, une mise en forme, et on a entendu des parties dialoguer, et je ne sais pas si on a entendu de ces autres parties dialoguer. Alors, je le montre, hein, c'est de loin. C'est pas des répliques qui se suivent, c'est des répliques qui à la fois se suivent et se répondent sur la page aussi. C'est pour ça que quand je parlais d'aspect graphique du texte, de poétique à l'œuvre sur la page, comme en édition de poésie, c'est là aussi. Et je voulais vous poser la question de cette première différenciation-là. Après, on pourra parler des syncopes aussi, mais je pense qu'elles ont leur fonction et leur être littéraire en soi. Mais déjà, voilà, cette première différenciation-là, est-ce que c'est un premier mode de dérèglement? De cacophonie entre eux, enfin, qu'est-ce que ça...
Alors, je crois que ça a à la fois trait à mon travail de manière générale et puis spécifiquement à ce projet. De manière générale, j'ai un rapport à l'écriture très rythmique, très musicale. Donc j'aime bien, vous avez employé le mot de partition et il est très juste, je parle de mes textes comme de partition, tant musicale d'ailleurs, peut-être que chorégraphique, puisque le corps est quand même quelque chose de très, très présent, les sensations, voilà, dans ce texte aussi. Et donc je me pose assez souvent la question de comment construire cette partition pour que même visuellement elle soit aussi palpable. Et par rapport à ces parties en dialogue simultané et plus spécifiquement à la pièce, j'avais pour moi envie de partir d'un bonheur un peu excessif, inquiétant. C'est la toute première scène que j'ai écrite, cette scène-là. Et j'avais envie de raconter de quelle manière en fait ces personnages-là n'étaient pas vraiment à l'écoute du monde qui les entoure et qui sont comme ça dans une espèce de cacophonie, ouais, de presque de logorée, où j'ai mis en forme le texte de cette manière pour presque qu'il y ait une continuité, comme si finalement c'était qu'une seule phrase mais polyphonique quelque part, voilà, où ils se répondent pas forcément directement, mais même il y a quelques répliques qui résonnent les unes avec les autres par moment. Et donc voilà, ça construit cette espèce de bruit ambiant qui crée tous les quatre en parlant Marissa de sa grossesse et de l'inquiétude, de l'appétit dévorant qu'elle commence à développer à ce moment-là. Et Glenn, lui, parce que c'est les deux figures majeures dans cette scène, Glenn lui raconte sa rencontre virtuelle récente avec une femme, voilà, avec qui il entretient une relation amoureuse complètement fantasmée. Et donc voilà, de ce bonheur-là arrive un événement à la fin de cette scène qui est un coup de feu, hors champ, on ne sait pas vraiment, et je ne reviens pas vraiment dessus, mais moi, là, j'avais envie de faire entrer en résonance ces deux éléments-là, c'était de dire, bon, comment ils le perçoivent, ce coup de feu-là, et on se rend compte qu'après, ils retournent dans leur logorée, donc finalement, ça ne les impacte pas plus que ça, et voilà, donc, pour cette scène spécifique, c'était une manière de le raconter, qu'ils étaient un petit peu imperméables comme ça.
Et c'est en ce sens-là où ça manifeste, quand je disais ça nous concerne, d'une manière... évidemment insistante, et puis avec ce qu'il faut aussi pour des lecteurs ou un public, c'est-à-dire pour que ça existe, il faut, comme vous l'avez fait tout à l'heure, insister. Mais ça dit quelque chose, je pense, des états dans lesquels on s'est tous retrouvés, ou dans lesquels on a parfois tous voulu nous mettre. Je pense aussi bien après le 13 novembre, les manifestations de faut aller en terrasse. Mm-hmm. Vous voyez, c'est-à-dire il faut vivre, ce qui est salutaire, mais bizarre. Et puis après le confinement, ça a été pareil en fait. C'est-à-dire il faut que ça reprenne. Il y a plus d'avions que jamais. Enfin voilà, faut voyager, faut y aller. Et il me semble que la manière qu'ils ont de se manifester, aussi bien dans le très concret, c'est-à-dire que la façon qu'elle a de se remplir, c'est pas seulement parce qu'une femme enceinte a faim. C'est-à-dire, elle se remplit comme Glenn se remplit de signes avec sa relation et comme ça produit des signes sur la page qui, dans ces moments-là, sont une cacophonie à vide, a priori.
Oui, mais je crois que ça a trait, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, à la question de l'imaginaire. Si on se comporte de cette manière-là, c'est que, moi je me souviens, et je crois que ça revient, par exemple, je me suis redocumenté sur Fukushima après... en 2020, et il y avait cet imaginaire de rupture que représente une catastrophe entre un monde d'avant et un monde d'après. On a beaucoup parlé de ça, de ça y est, en fait, on vit un moment de fracture et le monde d'après va arriver. Et cette désillusion-là, quelques mois plus tard, de se rendre compte qu'en fait, ben, le monde d'après, c'est le monde d'avant. Et je crois que c'est attrait aussi à nos imaginaires. On n'a pas peut-être l'imaginaire possible pour rêver à d'autres mondes, on commence à le faire, mais ça a été tellement sidérant que ça prend sans doute du temps à les inventer, ces imaginaires-là. Et ça vient aussi répondre à, au côté réconfortant que représentent les habitudes, retrouver voilà, des gestes qu'on identifie très bien. Là, c'est, voilà, c'est notre imaginaire quotidien qui a été malmené pendant tout ce moment d'arrêt, quoi. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose de rassurant, de réconfortant, qui apaise. Et je crois que c'est cette ligne de tension-là, et en tout cas, ça a été une ligne de tension que j'ai voulu mettre en avant, de vouloir continuer, revenir à ce qu'on connaît très bien, mais tout en sentant qu'il y a quelque chose qui a changé, et que, bien sûr qu'il y a des bouleversements qui ont eu lieu pendant le Covid et qui se poursuivent aujourd'hui. On le voit, il y a eu des conséquences sur la santé mentale, par exemple. On en parle un petit peu plus, alors que avant on n'en parlait pas tant que ça. Ou pour des détails plus techniques, le recours au télétravail, par exemple, qui existait avant, mais qui s'est un peu plus généralisé. Mais globalement, c'est des petites choses et pas vraiment un univers de basculement.
Et ça passe par des détails, c'est un peu plus loin dans le texte, mais il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça par deux, qui se répondent. Je pense à il est question de la nourriture, encore une fois, hein, parce que la nourriture est détaillée, comme on l'a entendu au début. Et puis, après, cette partie-là de la catastrophe, parce que, comme je le disais, je pense qu'il y a une grande catastrophe sous-jacente, qui est la fin de l'humanité potentielle, et il y a ce choc du nucléaire. Il y a deux manifestations, enfin, à deux moments, elle dit, voilà, ce que j'ai acheté vient de loin, ne vous inquiétez pas, hein, les fruits, les légumes, et un peu plus loin, ce que j'ai acheté vient de près, c'est un petit producteur bio, mais c'est bien contrôlé. Et il y a plusieurs motifs comme ça qui se répètent, et qui disent ça par le détail, qui disent le dérisoire dans lequel nous sommes. Tous plongés face à ces menaces qui sont bien plus grandes que nous, en fait, et qu'à côté de ça, bon, bah, on va manger bio, quoi.
Oui. Même sur les prises de position, ce que je voulais raconter aussi, c'est que ces personnages-là, ils ont l'air comme ça d'être très ancrés dans leur conviction, mais un moment de rupture que représente une catastrophe nucléaire fait un peu tout basculer. Et finalement, on a jamais vraiment rien n'est jamais vraiment acquis. Notre identité est toujours mouvante, nos points de vue, notre regard sur le monde. Et parfois, ça vient de nous-mêmes, et parfois aussi, c'est l'extérieur qui nous frappe et qui fait qu'on bascule. Et oui, donc finalement, ils font que être comme ça, sembler, en tout cas péremptoire, mais on se rend compte au fur et à mesure de la pièce qu'effectivement, il y a tout et son contraire, et qu'on est, beaucoup plus complexe qu'on ose bien se l'avouer par moments.
Manifestation textuelle, alors si je vous le montre, c'est trop loin, mais on l'a entendu, ça. Il y a un bulletin météo au début de chaque scène, qui petit à petit, vous l'avez entendu manipuler sonorement, qui petit à petit se désagrège, les signes disparaissent, ça s'efface. Ça, c'est très explicite, comme signal, je pense. Très compréhensible, voilà, très explicite. Et en même temps, ça dit aussi une potentialité d'autres catastrophes, celle de la crise climatique. Mais il y a aussi ces syncopes qui viennent conclure les parties. Vous en avez lu une. Et je voudrais vous interroger sur le statut, ce statut-là du texte dans le texte. Parce que ce n'est pas exactement un monologue, c'est comme un cut-up au départ, de dépêche, de tweet. Enfin voilà, c'est de la dépêche. C'est informatif et puis ça mute. Il y a un énonciateur qui change. À la fin, ouais, c'est un peu... Merci. À la fin, un des personnages, pas toujours le même d'ailleurs, prend parole finalement. C'est-à-dire qu'il y a un renversement, une tentative aussi, je pense, de réaffirmation de l'humain au cœur de ce flux d'informations anesthésiantes.
Oui, alors, ces parties-là, les syncopes, elles n'existaient pas dans la première version du texte. C'est venu parce que, disons que la difficulté que j'avais avec cette pièce, c'était de trouver le juste milieu entre dire ou ne pas dire la catastrophe. Au début, j'avais que les scènes de pique-nique, et puis je me rendais compte, et dans les retours que j'avais, qu'il manquait quelque chose, une manière pour les lecteurs, spectateurs, de s'emparer, en fait, de la catastrophe. Et donc, j'ai d'abord pensé, donc, techniquement, à peut-être qu'il faut rajouter de l'information aussi, des éléments de compréhension. Et c'est là où j'ai commencé à imaginer ces bouts de texte-là. Oui, j'ai voulu construire de cette manière pour rendre compte plus directement du vertige dont je parlais tout à l'heure, où on est baigné dans un flux d'informations qui vont dans tous les sens, On entend tout et son contraire, et finalement, et ça va très vite en plus. Donc, il y avait vraiment cette volonté de rendre cette sensation-là, et en même temps que donner des éléments, mais qui ne sont pas finalement donnés si facilement. Où il faut un petit peu tirer de qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce que ça crée comme vertige, et comment ça raconte et ne raconte pas la catastrophe en même temps. Voilà, et qui, pour moi aussi, crée une espèce de hors-champ, un contrepoint, et de se dire que, outre ce petit univers, ce microcosme des personnages, voilà, il y avait tout un monde complètement dérouté, embrouillé, qui existait. Et en même temps, ces scènes-là me permettaient de faire un peu fil temporel entre les parties, puisque entre la première et la deuxième partie, il y a 6 mois qui se passent. Après, on voyage encore pendant quelques mois, et toute la pièce se déplace comme ça sur 2 années. Et il fallait aussi que je donne les signes de qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là pour les personnages.
Vous avez noté à quel point on reproduit le dispositif. Enfin, on a comme le coup de feu aussi qui vient trouer notre conversation et perturber, on fait mine de rien. On a entendu plusieurs voix. Il y en a une qui se fait plus discrète tout du long. Il s'appelle Manuel. Là, on a entendu Glenn. Glenn se manifeste fort. Eva, c'est l'artiste qui se manifeste fort et qui les saoule avec ses prétentions artistiques, qui par ailleurs soudain deviennent très belles aussi. C'est-à-dire qu'il y a il y a des réversibilités dans leur fragilité. Il y a Marissa qui elle attend donc un bébé, donc c'est ça, et qui est enseignante. Donc elle est définie. Et puis il y en a un, et d'ailleurs c'est un moment fort, puisqu'à un moment il demande lui-même, comme un personnage en quête d'auteur à cet endroit, mais moi, pourquoi personne ne me demande ce que je fais? Du coup, je vous pose la question, plutôt que de tout dire. Manuel, qui il est, le fait qu'il soit en contrepoint aussi est intéressant, justement par rapport à ce qu'il fait, me semble-t-il, et qui a quand même également grand rapport avec le titre.
Oui, alors... C'est sur les choses qu'on ne maîtrise pas complètement quand on écrit. C'est vrai que c'est un personnage qui assez rapidement s'est dessiné en creux et que j'ai essayé de faire un peu plus parler. Puis je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui coinçait et qui avait trait, je crois, à son caractère. Et donc, il a pris cette place un peu plus secondaire. Mais je crois que ça avait trait aussi à cette chose que je soulevais tout à l'heure sur la question que ça m'a posée d'écrire sur cette catastrophe et comment la nommer. Et je crois que des quatre, c'est peut-être celui qui se sent le plus concerné. Dans la deuxième syncope, justement, il y a tout un témoignage où il raconte qu'il s'est beaucoup informé, il est devenu un peu obsédé par cette question-là. Et en même temps, à travers ce personnage-là, je crois que petit à petit, s'est dessiné un parcours qui interroge le rapport à la santé mentale. Je nomme pas forcément un trouble directement, je sais même pas si j'ai vraiment résolu cette question, mais voilà, en tout cas il y avait quelque chose comme ça d'un état qu'il n'arrivait pas à nommer, peut-être qu'il n'en avait pas complètement conscience, mais qui en tout cas l'anime et anime son rapport à la parole, et donc qui vient plutôt en soutien, d'autant que il fonctionne en duo assez souvent avec Marissa, qui est une énergie aussi très... Elle prend beaucoup de place, c'est pour moi le personnage prédominant de cette pièce. Et justement, le moment où elle n'est pas là, c'est celui où il pose cette fameuse question de « Pourquoi personne ne me demande jamais ce que je fais ?» Donc il y a un petit peu de cette chose-là, du rapport des uns des autres et de son parcours, son propre état, qui a nourri ce rapport à la parole chez lui.
Et ce qu'il fait ? Est-ce qu'il fait c'est important, c'est-à-dire qu'on lui mettait bibliothécaire, je crois, non.
Oui, archiviste. Ouais.
Archiviste. c'est pour ça que je parlais du titre.
Oui, bien sûr.
Ce qui nous permet, je pense qu'on est bientôt sur la dernière question,
ouais.
Mais comme il est archiviste, un rapport avec l'archive, alors moi je lisais en même temps le livre de Gaël Obiegli, avec qui il y aura une rencontre à 14h dimanche, je fais un peu de teasing parce que c'est pas l'horaire le plus facile, et c'est très bien aussi sur la question des archives, donc je faisais sans doute des connexions en plus, mais au-delà de mon propre cas, il est question très clairement de la mémoire et de l'oubli.
Oui.
Si quelque chose est au cœur, c'est aussi ça, c'est-à-dire à la fois dans l'époque et puis presque métaphysiquement. Est-ce qu'on veut oublier ou se souvenir?
Oui, c'est d'ailleurs en exergue à une citation d'Alexievitch, de la Supplication, qui pose cette question-là. Qu'est-ce qui est préférable, finalement, c'est de se souvenir ou d'oublier? Et oui, il Il y a à la fois, je pense, une catastrophe, quelle qu'elle soit, représente une forme de traumatisme collectif qu'on n'arrive pas toujours à nommer de cette manière-là. Donc c'est comment on essaie à la fois de penser, donc avec le E et le A. Et j'ai l'impression qu'on n'y arrive pas toujours, mais peut-être aussi parce qu'on n'a pas l'imaginaire pour le faire. Et en même temps, voilà, ça nous marque quand même, ça fait mémoire, mais on a envie d'oublier et de revenir à nos habitudes d'avant, donc ça vient tordre quelque chose. En même temps que je crois que ça raconte quelque chose de notre époque, enfin, ce qu'il dit à un moment donné dans la scène où il demande pourquoi personne ne me voit, ne me demande ce que je fais, c'est que finalement on est dans une époque qui a peut-être honte d'elle-même et qui préfère oublier. Donc ça, c'est un clin d'œil à Kundera qui en parle dans La Lenteur. Et voilà, j'étais très marqué par cette citation-là et je me dis, ben oui, peut-être que cette espèce de flux extrêmement rapide aussi en dehors de la catastrophe, ce trop-plein dans lequel on est aussi nous interroge sur finalement qu'est-ce qui reste, demeure ou au contraire qu'est-ce qui passe comme ça, où on se situe à un moment de notre société où on est saturé et où la catastrophe vient non seulement saturer mais morceler. Voilà, donc j'apporte pas forcément de réponse, mais en tout cas c'était assez, voilà, assez vertigineux et passionnant de la poser directement dans mon texte à travers Manuel. Ouais.
Merci. Il nous reste 3 minutes. Si vous avez une question ou un témoignage sur quelqu'un qui aurait lu le texte ou quelque chose qu'on n'aurait pas éclairé, si vous en avez l'envie. Non, c'est...
Si c'est...
Oui, monsieur.
Si c'est votre premier texte, si vous en avez écrit d'autres avant, et si ce texte-là, vous avez l'intention de le mettre en scène, ou s'il a été mis en scène.
Oui, alors, c'est un texte un peu particulier parce que donc, j'ai mis 7 ans à le finir. Mais pour moi, ça reste un des premiers. Donc j'avais écrit un premier texte un petit peu avant, mais qui était une entrée pour moi dans l'écriture. Donc j'en suis pas tout à fait satisfait, alors qu'avec Après nous les ruines, j'ai voulu poser aussi un geste, mais parce que j'entrais dans une formation en écriture où voilà, je voulais m'affirmer comme écrivain. Et puis quand dans l'entretemps, parce que j'ai bossé dessus pendant un an et demi, puis après il a reposé pendant 4 ans, et pendant ces 4 années, oui, j'ai écrit d'autres textes. Mais voilà, malgré tout, je pense que il est assez fondateur pour moi, fondateur aussi de mon geste. Je crois que je suis passé par différentes phases d'écriture où j'ai exploré d'autres territoires, toujours liés au théâtre, mais quand même j'ai essayé différentes choses. Et voilà, j'y suis revenu parce que je crois que c'est assez fondateur, ça me représente assez bien ce travail-là, ou en tout cas c'est ce qui me motive. Et sur la question de la mise en scène, alors elle n'a pas encore eu lieu. Il y a eu des mises en lecture qui ont été faites, notamment une à Théâtre Ouvert en décembre dernier avec Léna Pogam et des étudiants du TNB. Il y aura a priori une mise en scène prévue avec Vincent Garanger, donc qui est acteur et metteur en scène, a priori en 2025-2026. Voilà.
Merci. Une autre question, mais on est à la fin. Merci beaucoup de votre attention et merci de ce texte et puis de cette sacrée lecture.
Merci beaucoup.
Merci Pierre.
Merci.
Bonne suite, bon après-midi.